vous souhaitez à suivre dans les notes la page 3, je pense, il y a les points principaux. Merci de votre accueil chaleureux. Je suis content de vous découvrir. Il y a environ 2 ans, Marc-Étienne est allé commencer à parler de cette région de Carayon, à laquelle il s'intéressait en particulier. Et il me disait qu'il avait eu un bon contact et les choses se mettaient en place. Il m'a encouragé d'être finalement là, parce que en tant que responsable à l'Institut, Marc-Étienne a été formé. J'ai pu l'encourager à se lancer dans le ministère pastoral. Donc voilà, je suis un peu en visite pour voir qu'il est là et que ça se passe bien. Philippiens, chapitre 1, on va lire juste quelques versets, mais j'espère que pendant la journée, on va être conduit par cette épître, parce qu'on va avoir plusieurs parties pour nous guider dans nos prières, savoir comment prier. Et en particulier, pour commencer, quoi de mieux que la prière de Paul pour les Philippiens. La façon de dire bonjour aux gens et la façon de prier pour les gens nous dit beaucoup sur les relations qui existent. Si on regarde comment deux personnes se saluent, c'est très froid, c'est très fraternel. La façon dont les gens prient les uns pour les autres, c'est soit informé, spécifique, vague, désintéressé. On peut voir l'attitude de Paul envers ses Philippiens, ça va nous conduire aussi à nous remettre en question par rapport à notre engagement au Dieu du Seigneur dans l'Église locale. Donc on va lire Philippiens chapitre 1, on commence logiquement, verset 1. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance, tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. 3 choses. D'abord, soyons partenaires, parce que Christ nous unit. C'est une idée vraiment importante pour cet épître, le partenariat dans l'Évangile. Paul reconnaissait que les Philippiens, qui connaissaient déjà depuis longtemps, ils avaient été là au départ de cette église, et depuis le premier jour où il avait été accueilli, l'Évangile avait été accueilli, les personnes sont devenues chrétiennes, qu'il y a eu ce partage avec eux. Et donc, ils s'investissaient avec Paul dans le travail de l'Évangile. Ils ont même payé pour que Paul puisse aller être missionnaire ailleurs, dans d'autres villes. Ils s'intéressaient au progrès de l'Évangile. Et plusieurs fois, dans cette épître, Paul va parler d'un même mot, le mot de communion qu'il utilise pour parler de cette communion dans l'Évangile. En français, ça marche bien, hein, dans communion, il y a le mot commun. Et il y avait quelque chose en commun qu'il mettait en commun. Et vous pouvez voir, c'est un même mot, mais avec des traductions un peu différentes, verset 7 du chapitre 1. Vous participez tous à la même grâce que moi. Plus loin, chapitre 2, verset 1. S'il y a une communion de l'esprit, même mot, même idée, communion de l'esprit. Chapitre 3, verset 10. Je connaissais Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. Et puis chapitre 4, verset 14. Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Même vous, même idée. Prendre part. Verset 15 de ce même chapitre 4. Vous le savez vous-même, lorsque j'ai quitté la ville de Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été le seul à le faire. Donc ce partenariat, il y a plusieurs facettes. Parfois, on peut dire on est partenaire dans l'Évangile, on a reçu la même grâce du Seigneur. Parfois, on va dire, mais en fait, on souffre ensemble, on communie avec Christ dans ce fait que lui a souffert et nous, on souffre pour son nom. Mais parfois, la communion, on va dire, va aller jusqu'à s'impliquer financièrement. Et moi, je soutiens avec mes biens celui qui porte l'évangile. Et donc, ce partenariat était bien réel entre Paul et les Philippiens. Ce n'était pas juste une expression, c'était vraiment quelque chose qui ressentait fortement ce lien partenariat avec eux. Un peu comme dans les affaires, dans les partenaires d'une firme, c'est les personnes qui sont les plus impliquées dans la firme, dans la société, qui sont partenaires de cette société-là, n'est-ce pas? C'est la même idée. Alors, Paul écrit, on commence au verset 1, il dit, voilà, on penserait qu'il dirait de la part de Saint Paul à mes amis, mais c'est pas ça. Il dit, de la part de Paul aux saints. Il écrit évidemment comme saint. Vous savez, c'est n'est-ce pas? Il n'y a pas que les grands de l'Église ou de l'histoire de l'Église qui sont saints, mais ici, voilà, il y a Saint Paul, il y a Saint Léonard, il y a Saint Marc-Étienne. On est des saints ensemble. Ce n'est pas un titre qu'on reçoit après les décennies de vie chrétienne, de bonnes prestations spirituelles, au contraire. C'est juste un titre qu'on reçoit. Alors, il parle de l'unité. Et ce qu'on ressent ici, c'est qu'il y a unité entre lui, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, et puis aussi l'Église qui est en Jésus-Christ. Et il y a unité dans la vérité, parce que cette compréhension n'est pas juste du fait que voilà, on est dans l'Église, on est dans le milieu chrétien, mais qu'on est en Christ. On comprend donc que Jésus est celui qui a fait l'Évangile. Il a été celui qui a mis en place le salut. Et quand on comprend cela, on est sauvé d'un colère à venir, on est bénéficiaire de cette grâce dont il parle. Unité dans la vérité. Ils sont tous les deux en Christ. Ils ont le même Père. Dieu est notre Père. Et Jésus est reconnu à la fois comme Christ, comme on vient de chanter, et le Messie, le Roi, et comme Seigneur. Ça veut dire qu'il est Dieu en chair et en os. Il est réellement le Seigneur, il est Dieu. Donc il y a unité dans cette vérité. L'unité, ce n'est pas juste un sentiment doux qu'on a quand on est ensemble. Ça doit avoir un fondement. Et le fondement de notre unité chrétienne, c'est la vérité par rapport à Christ. Unité dans la vérité, unité en Christ. Et puis après, il parle de l'unité, mais on remarque quand même qu'il n'y a pas la similitude. Vous voyez qu'au verset 1, lorsqu'il le réécrit, il parle saint et avec les responsables et les diacres. C'est-à-dire que dans l'Église, même si on est tous partenaires à l'Évangile, on ne fait pas tous la même chose. Paul reconnaissait cela. Il était nécessaire d'avoir des responsables sur place qui avaient une part de responsabilité, des diacres qui avaient un rôle mis à part aussi dans l'Église, même si tout le monde sert, certaines personnes qui sont des diacres, mais tout le monde est membre. Mais le but n'est pas donc d'être tous les mêmes, d'être des clones, d'être dans une démocratie entière où tout le monde va faire la même chose, mais plutôt qu'on travaille chacun avec ses dons, ses capacités, dans un but commun. Et c'est ça la beauté de l'Église, l'unité, mais pas nécessairement la similitude dans le sens d'être complètement les mêmes. Et puis il y a unité, mais pas de division. Alors, vous allez dire, c'est logique, si on est unis, on n'est pas divisé. Mais remarquez le nombre de fois où Paul dit un petit mot, le mot « tous ». Et bon, généralement, quand il exprime la grâce, la paix de Dieu, okay, c'est normal, mais il dit quand même à tous, verset 1. Et puis il revient là-dessus, il prie pour tous, verset 4. Je vais prier pour vous tous. Je pense à vous, verset 7, tous. Et puis il participe tous à la même grâce. Verset 8, je vous chéris tous. Pourquoi est-ce qu'il insiste sur ce tous? C'est parce qu'en fait, il savait que cette église-là, Philippe, était juste en danger d'être un peu divisé. Il y avait quelques souffrances qui venaient, il y avait de l'opposition contre l'Église, et il y avait juste le risque qu'ils se disent, bon, ok, moi je me distancie un peu des autres, moi je vais continuer à vivre ma vie chrétienne, mais sans trop m'impliquer auprès des autres. Je soutiens Paul, oui, c'est bien, mais je ne vais pas trop vous dire, non, devez rester ensemble. Paul voulait exprimer qu'il les aimait tous. Tout le monde avait une part, et il les chérissait tous, sans exception. Tous ensemble, tous dans l'Église. Alors il se réjouit de les connaître, et on voit ça au verset 3 et 5. Il remercie Dieu pour le souvenir qu'il a de tous. Pas de rivalité, le désaccord, tous les croyants unis en Christ. Alors, on peut essayer de nous taper aussi par rapport à ça. Qu'est-ce que ça veut dire si l'unité doit exister dans l'Église? Ben d'abord, on doit comprendre que la vie chrétienne d'Église, ce n'est pas comme une course, en fait, de course au supermarché. Et on a chacun notre chariot, et on fait ça surtout aussi en France, j'imagine, aussi du coup magique, et on prend ce qu'on veut dans notre chariot, et puis on part. En fait, c'est plutôt comme, l'Église est plutôt comme une cuisine, où chacun amène leurs ingrédients, on met tout ça tout en commun, et on travaille ensemble, en disant, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, on met cela en commun, pour préparer quelque chose. La vie chrétienne, donc, elle travaille en équipe. Et c'est peut-être une bonne image à garder en tête lorsque nous pensons à comment nous pouvons prier aujourd'hui. Nous devons prier les uns pour les autres. Non seulement pour nos amis, ou seulement pour les malades, je ne sais pas pour qui vous priez le plus souvent à votre église, nous on prie beaucoup pour les personnes qui sont malades, mais on doit prendre l'exemple de Paul, et on va prier pour tous. Et cette prière-là, c'est une prière d'abord de remerciement, d'être reconnaissant. Et si on prend le temps pour remercier Dieu pour chaque personne qui est à l'Église, sans exception. Ce serait déjà un bon point de débat, n'est-ce pas? Pour montrer qu'on est vraiment unis en Christ. Et qu'on reconnaît que la paix et la grâce de Dieu nous sont données en Jésus-Christ pour tous les chrétiens de l'Église. Voilà, donc ça parle de notre unité et de notre reconnaissance. En toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Christ nous unit. Soyons donc partenaires. Considérons-nous les uns les autres comme partenaires en train de travailler dans un même objectif parce qu'on est unis en Christ. Deuxièmement, soyons persévérants. Dieu travaille en nous. Peut-être la persévérance, c'est l'aspect le plus difficile à développer. C'est-à-dire continuer dans la même lancée que l'on a commencé. Mais continuer. Et là, ils avaient continué depuis le premier jour, c'est-à-dire le premier jour où ils avaient entendu la prédication de Paul, ils avaient continué jusqu'à, on pense que c'est environ 10 ans plus tard que Paul écrit cette lettre. Ils continuaient quand même à le soutenir dans son œuvre. Mais personnellement, ça tient au fait que Dieu travaille en nous. On va voir le verset 6 à 8. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il y a quelques années, nous étions au parc de Bruxelles, il y a le parcours des 20 km, c'est une grande course à Bruxelles, on se dit on va aller voir. Et je me souviens qu'on s'était là c'est le parc de Bruxelles, disons, c'est à 2 km du point de départ. Et déjà, il y avait des personnes qui couraient très très vite. Et après, il y avait une masse de personnes qui couraient un peu moins vite. Et puis, il y avait des personnes qui étaient vraiment carrément soufflées. On se disait, aïe, c'est encore long, 18 km à faire. Persévérer, c'est pas une chose facile. Mais on doit comprendre que la persévérance est nécessaire pour la vie. C'est-à-dire, ils avaient persévéré jusque-là, mais ils allaient devoir continuer dans cette lancée. Alors, comment est-ce qu'on sait que ces personnes vont persévérer? Ben, pensons à une des personnes qui a été atteinte. C'était dans la ville de Philippe, la première ville européenne à être évangélisée. Il y avait là une femme qui s'appelait Lydie, et Actes 16 décrit comment cette femme d'affaires l'a touchée. Elle a été interpellée en écoutant la prédication de Paul, et la Bible dit qu'elle écoutait, et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Donc on dit, mais qui a commencé? C'est pas Lydie qui a dit, bon, moi je vais croire à ce que dit Paul, mais Dieu œuvrait dans son cœur pour ouvrir son cœur à l'écoute de sa parole. En fait, c'est vrai, Dieu a commencé. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, il parle pas de lui-même, moi je vais continuer, ou responsable, non, c'est Dieu qui a commencé cela en vous. Et si Dieu a commencé quelque chose, eh bien, ce qui a commencé, il va mener jusqu'au bout. Dieu persévère avec nous. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ça, c'est un réconfort. Parce que ça veut dire qu'on ne doit pas dire, oh, d'ailleurs, la vie chrétienne, qu'est-ce que ça va être? C'est long, quand même. Encore 30, 40 ans, je dois se dire comme ça. face à la pression de la société, de la famille peut-être, ou mes amis, qui ne changent pas, ou qui vont vers le mal. Mais Dieu, dans les épreuves qui viennent, lorsque la vie semble difficile, on doit savoir que Dieu est à l'œuvre. Et quand la vie va bien, et tout baigne, et on dit, ouais, ça va être là, j'avance bien dans ma vie chrétienne. On doit se souvenir que, comme Paul dit au Philippiens de verset 13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Et donc, c'est pas moi qui, parfois, va bien et parfois va moins bien, qui va me sortir d'affaire ou qui va faire que ma vie continue en Christ. Ne vous en faites pas, dit Paul. Dans votre cas, je suis sûr que vous allez persévérer jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qui permet qu'il soit si sûr? D'ailleurs, c'est cette idée juste que je pense de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur. Et puis, il le répète au verset 8, je vous chéris tous. Mais alors, comment ça marche, ça? Vous êtes en train de regarder les 20 km, 3e km, 10e km, et vous voyez votre amie qui court. Elle semble vraiment bien fatiguée, elle dit, bon, aïe, aïe. Alors, c'est votre amie qui court, mais ça ne garantit pas qu'elle va poursuivre et garder sa persévérance. Juste parce que vous l'aimez, n'est pas une marque de son succès, de son parcours. Mais si cet ami court pour vous, court pour toi, et que si cet ami a déjà fait ses preuves régulièrement, en faisant des courses suffisamment, mais vraiment en courant, alors vous savez qu'elle ne va pas vous laisser tomber. Même si elle a l'air fatiguée, vous connaissez cette personne, vous savez qu'elle court par affection pour vous, par fidélité, et c'est plutôt le fait que de voir cet ami qui court, ça me donne de la joie. Ouais, ok, je suis content de le voir. Et je l'encourage. Et je sais que ça ira. Et Paul dit ça au verset 7. Vous participez tous à la même grâce que moi. Aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'évangile. Il soutenait Paul, qui était détenu à ce moment-là en prison. Et aussi, de leur côté, ils étaient en train de défendre l'évangile, d'affermir les gens dans l'évangile. Ils savaient que les Philippiens travaillaient pour lui. C'est pas juste qu'il les aimait. Il avait de l'affection pour eux. Mais il savait que eux travaillaient pour lui. Et donc, ça allait bien se passer. Ils avaient pris le choix de ne pas se distancer de Paul quand il était en prison. Ils avaient voulu être solidaires avec lui. Et encore une fois, ça nous interpelle. Est-ce que nous allons être solidaires avec les personnes qui sont en difficulté quand quelqu'un est peut-être attaqué parce que c'est un chrétien dans notre vie, sa réputation? Est-ce que nous allons être solidaires avec lui? Je me souviens encore du jour où j'étais dans un collège et à l'université. On avait un groupe public universitaire et notre responsable du groupe, il mettait des affiches pour les différents événements qu'on a. Et puis une étudiante m'avait dit, bon, je déteste ce gars. Tu ne connais pas, il est en deuxième année, tu es en première, tu ne connais pas, tu ne fais pas le même cours. Et évidemment, je déteste parce qu'on met des affiches qui me choquent, qui m'embêtent. Alors à ce moment-là, est-ce que je vais dire, ah, mais effectivement, c'est moi, je suis dans le groupe public universitaire. Ou est-ce que je vais dire, non, ça n'a rien à voir avec moi. Difficile, n'est-ce pas, de pouvoir se positionner. Être solidaire, en fait, ça nous coûte. Ça pourrait coûter de l'argent, ça pourrait coûter du temps dans la prière. Vous avez donné votre samedi pour prier, pour montrer votre solidarité avec les frères et sœurs de l'Église. Ça pourrait nous coûter notre réputation comme quelqu'un de chouette ou d'aimable. Ça pourrait nous attirer des ennuis également. Mais le partage, l'unité dans l'Évangile, c'est quelque chose qui se vit. Et donc nous devons donner notre soutien pour les autres. Nous devons être solidaires et persévérants. Et cela, on voit que c'est vraiment pour le soutien de Paul. Il n'a pas dit que Paul allait trop loin ou que c'était de sa faute qu'il était en prison. Mais il était prêt à être impliqué. Donc, j'espère que vous, dans l'Église, quand on se connaît bien, quand on est impliqué dans le service ensemble, que ce soit à l'école du dimanche ou les réunions en semaine ou les journées de prière, on sait qu'on peut se faire confiance. Comme Paul pouvait avoir cette confiance par rapport à cette Église, comme c'est nous, que nous aussi on peut se faire confiance, on peut bâtir quelque chose quand on a confiance dans chacun. Soyons persévérants. Dieu travaille en nous. Et puis la suite, soyons productifs. Dernier point, soyons productifs. Christ revient. C'est intéressant, n'est-ce pas, que les deux choses vont de pair. Dieu travaille, est confiant que Dieu va persévérer avec nous, et puis en même temps, nous devons prier. Et c'est exactement ça. Aujourd'hui, on n'est pas en train de tout faire nous-mêmes. Non, Dieu travaille. Mais quand même, Dieu nous appelle à prier, à nous impliquer. Et donc, Paul continuait à prier pour les Philippiens. Il ne disait pas, ah, pas de problème. Eux, Dieu va s'en prendre au sort, il va persévérer avec eux. Donc, il prie pour eux. Voici ce que je demande, il dit, verset 9, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Quatre requêtes. Et ce sont toutes des requêtes spirituelles, toutes des requêtes spirituelles. Parce qu'en fait, l'apôtre veut leur plus grand bien. On n'a pas vu qu'il priait pour telle ou telle personne malade, ou telle autre situation pénible, le chat qui devait être réparé, la traîne, des choses comme ça, c'était pas ça. Mais vous savez, si vous êtes parent, que bien sûr vous intéressez à tout ce qui vient pour vos enfants, les jouets, les gadgets, les choses qui les intéressent, mais pour vous, peut-être le plus important, c'est leur santé, c'est leur bien-être. Et donc, on se soucie de la santé spirituelle de nos enfants en particulier. Et Paul prie alors comme un parent pour cette église, un petit peu cette église. Alors, le partenariat dont on va parler, eux s'investissaient dans le partenariat en le soutenant, mais Paul s'investissait, c'était réciproque. Paul s'investissait en priant pour eux. C'est la meilleure chose qu'il pouvait faire pour eux, aussi écrit une lettre, il fait cela. Mais c'était pour les encourager, pour que le Seigneur leur accorde des bénédictions. Et donc, je ne veux pas que vous pensiez que voilà, le travail en église, c'est juste pénible, c'est toujours donner, donner, donner. C'est enrichissant. Et on trouve que c'est comme le mariage. Au plus on se donne à notre mariage, au plus c'est enrichissant pour l'un et pour l'autre. Oui, bien sûr, ça prend du temps. Entretenir un mariage, écouter l'autre personne, comprendre, faire des efforts. Oui, mais au plus on s'investit dans le mariage, au plus c'est positif pour tout le monde. C'est agréable pour soi aussi. Je dis cela, c'est un conseil gratuit lors d'un Saint-Valentin. mais c'est vraiment dans l'église aussi. Les personnes qui reçoivent le plus de l'église, généralement, c'est les personnes qui y passent le plus de temps, donc, qui sont le plus en contact avec les autres croyants. Et moi, je ne connais pas du tout, donc je ne sais pas qui est plus investi que l'autre, mais voilà. C'est une réalité dont je suis conscient aussi en tant que serviteur, que c'est moi qui reçois le plus vos communions, les bénédictions, les prières pour moi-même, etc. Alors Paul prie pour quatre choses pour le progrès spirituel. D'abord, l'amour et la connaissance. Un amour grandissant, mais pas un amour qui grandit n'importe comment. Il faut savoir qui aimer et comment aimer. Je ne sais pas si vous avez entendu l'expression « l'amour est aveugle ». Je ne sais pas si ça se dit en France. Alors c'est vrai que si on est aveugle, c'est peut-être plus facile de tomber amoureux. Ça c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que quand on tombe amoureux, souvent on est aveugle aux points, aux défauts, aux points faibles de l'autre personne. Je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est comme ça. On est juste aveugle. On se dit, hein, hein. Et on imagine que toutes les choses qu'on ne sait pas de l'autre personne sont positives. N'est-ce pas? Et puis qu'est-ce qui se passe? Ben, on coche toutes les cases, on dit, ouais, c'est formidable, je vais rencontrer la personne de mes rêves, etc. Et plus on apprend à connaître quelqu'un, et on se rend compte que ce jeune homme a des défauts de caractère, et que cette jeune femme a des tempéraments difficiles, des manies embêtantes, et que, au fur et à mesure qu'on le connaît, lui, la connaissance de ce gars fait diminuer l'amour qu'on a pour lui. Oui, c'est difficile parce qu'on dit, on a quand même engagé dans pas l'autre. Mais, quand on apprend à connaître Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est l'inverse. Au plus on connaît Dieu, plus on l'aime. Et c'est ça, en fait. C'est la connaissance de Dieu qui fait que notre amour augmente. Pourquoi? Parce qu'on étudie plus. Et on se rend compte combien il est formidable. Et on a envie de l'admirer plus. Plus on le contemple, plus on est ébloui. Et on est rassuré, on est porté à l'aimer. Donc, il faut prier que notre connaissance augmente pour que notre amour augmente. Et il faut chercher à connaître Dieu, pas simplement à dire, Bon, moi je n'étudie pas Dieu, je veux juste l'aimer. Ça, c'est diviser les choses que Dieu a émises. C'est par la connaissance qu'on va plus l'aimer. Donc c'est dans votre intérêt de venir à votre groupe du jeudi ou du vendredi pour approfondir votre connaissance pour mieux aimer. Lire des bons livres pour que vous aimiez Dieu davantage. Et notre amour grandisse. Deuxièmement, qu'il puisse discerner ce qui est essentiel. Ce qui puisse approuver ce qui est excellent, vous avez peut-être ça dans votre traduction. Approuver ce qui est excellent, c'est reconnaître ce qui est meilleur, que l'on vit pour Dieu. Et c'est difficile, n'est-ce pas? Parce qu'au début, au moins, on apprend à connaître le vrai du faux, le bien du mal. Mais entre le bien et ce qui est encore meilleur, entre le bon et l'excellent, il faut beaucoup de discernement pour décider, de savoir qu'est-ce que je dois faire maintenant. Je dois me reposer, c'est bien. Je dois servir, c'est bien aussi. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire une visite. Je dois faire une étude. Et qu'est-ce que je dois faire? C'est entre deux choix qui sont positifs, il faut le discernement. Et puis après, il prie pour la pureté, pour que vous soyez purs et irréprochables. Ils sont saints, il l'a déjà dit, verset 1, mais quand même, ils doivent devenir irréprochables. Quelle différence quand les chrétiens sont vraiment purs devant Dieu, qu'on cherche à marcher dans la pureté. Notre pensée doit être pure, même dans notre entourage s'intéresse à la pornographie. Nos œuvres doivent être irréprochables, même lorsqu'il y a moyen de gagner de l'argent en gloire. Mon comportement doit être irréprochable. Notre comportement, même quand les autres ne nous regardent pas, ne sont pas là pour nous observer. Parce qu'on sait qu'on est devant Dieu. Un jour, nous serons face à Christ, Jésus-Christ lui-même, le jour de Christ, apparaîtra. Soit dit en passant, l'épître Philippiens mentionne assez souvent, peut-être que les deux. Et quand Jésus revient, lui, il est tellement pur que nous, on sera gênés par toute impureté qu'on a gardée dans notre esprit. On va regretter ça. Et nous voudrons être aussi purs que possible dans tous les domaines de notre vie, pour que nous soyons joyeux, non, ça ne devrait pas être honteux. Le Christ crucifié, glorifié, viendra chercher ceux qui l'a racheté par sa mort à la croix. Et le juste juge, comme dit la parole, viendra chercher le fruit de justice, le fruit de sa vie. Et justement, il y a la question des fruits, il faut prier pour les fruits, c'est la quatrième point, prier pour les fruits de justice, la justice. Que nous puissions vivre justement en relation avec Dieu, et que nous soyons des chrétiens unis par l'Évangile, partenaires dans la foi. Et si on a ces gens, si vous deveniez cette Église, qui est des partenaires dans l'Évangile, qui persévèrent, qui sont productifs, qui aiment Dieu, qui connaissent Dieu, qui discernent bien, qui sont celles qui sont purs, qui portent du fruit, qu'est-ce que ça va donner? C'est que ça nous semble juste impossible. Mais c'est possible. Dieu peut faire cela en nous. Mais tout cela, il le fait miraculeusement, mais il le fait pour sa gloire, pour sa louange. Et donc, notre vie individuelle et collective peut être à sa gloire et à sa louange. Ça, c'est formidable. Voilà, je vous invite maintenant à prier sans parler évidemment de requêtes personnelles ou de besoins, parce que ça, on va garder pour plus tard. Plutôt de commencer avec ces pensées, peut-être sous les yeux, ce texte sous les yeux. Remercier et louer Dieu. On va remercier l'Église, on va louer pour la grâce, on ne prie pas par cette grâce, et on va prier des prières toutes simples. Vous savez comme moi, il y a plusieurs façons de prier. On peut prier des prières toutes courtes, dans la journée, parfois on pense à quelque chose, on dit, Seigneur, aide un tel, etc., aide-moi. Prière flèche. On peut avoir des temps réguliers de prière où on prie chaque jour, peut-être plus longuement pour certaines choses qu'on a à faire. Et puis on peut prier toute la journée, comme ceci. C'est bon d'avoir tous les trois. Il ne faut pas juste se confronter à une chose en disant, bon, j'ai ma journée de prière, et après, c'est bon. Moi, je prie juste des prières flèches, mais je ne prie pas régulièrement. Il faut essayer de développer les trois aspects. Des jours, des heures, des minutes, mais c'est bon. Mais si on va prier les prières courtes, et les prières de reconnaissance, les prières de louange pour l'Église dont nous faisons partie. Nous avons merci à Dieu qui nous fait grâce, qui nous donne des frères et sœurs, qui nous donne des partenaires. On va rester tous ensemble.